direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer.
On peut pas faire de magie, on peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est tout une surprise. Bonjour les tout-petits.
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François Gélinas.
Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Le rideau s'ouvre sur la grande scène. On prit place autour de cette table, les fameux acolytes. Bonsoir la gang!
Bonsoir!
Alors, dans l'ordre en studio, Juan Blasco.
Allô!
Janelle Touchette.
Salut!
Geneviève Prou.
Salutations.
Patrick Beaudoin.
Salut!
Et Christine Gélina.
Salut!
Alors, je vais faire un petit clin d'œil au thème de ce soir. Patrick, je vais dévoiler devant tout le monde que t'es le roi de la split.
Ah non, on va être sans des affaires.
J'ai une photo de ça, moi.
Ouais, la pandémie a fait son œuvre. Hein?
Oui, et ceux qui ont jamais vu Patrick, c'est pas du genre de physique qu'on pense qu'il peut faire la split. Hein?
Oh my God.
Je vais prendre ça presque pour un compliment.
Non, mais c'est assez impressionnant, Patrick. Là, tu l'as fait vraiment, la split.
Ben, je me suis beaucoup moins étiré dernièrement. Je touche plus le sol.
Quel âge? Non, tu touches plus le sol. T'es à combien? 10 cm?
Ouais, je sais pas. C'est rare quand je mesure. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais pour répondre à ta question, j'ai 47 ans.
47 ans et presque la split, c'est ouais. Quand même quelque chose.
Bravo.
Ouais, bravo, ouais, oui.
Et, bravo.
Ça, et ça, tu le dois à tes filles?
Je sais pas.
Non, c'est pas. Ouais, ben, il me semble que tu m'as déjà raconté. Excuse-moi, Juanito, quoi?
J'ai encouragé, il y a quand même des enfants.
Ben oui.
Vu que c'est fini, c'est ça. Mais en fait, oui, avec mes enfants, j'ai 4 filles, ils ont toujours fait beaucoup de danse, du cheerleading. Moi, pour les aider, pour les pousser à faire leurs étirements, je le faisais avec elles.
Bon, wow. Alors, j'ai parlé du roi de la split et c'était un petit clin d'œil au thème de ce soir. Qui l'a choisi, le thème de ce soir? C'est Janelle.
Moi!
Oui. Tu t'en souviens-tu pourquoi tu l'avais proposé?
Oui, je venais de me claquer une série que je ne vais pas nommer nécessairement tout de suite.
Parce que tu m'as volé le punch.
Ouais, c'est ça. Mais je venais de me claquer la série et voilà, ça, j'étais comme « Mon Dieu, faut qu'on parle de ça au cabaret! »
Bon, allez. Alors, je vais la présenter, cette série. Mais
ce thème-là.
Ce soir au cabaret, nous célébrons une histoire d'héritier et de couronnement, de royaume et de trône. Nous célébrons le parcours de reines et de rois venus des quatre coins du monde. C'est tout un bal de princesses et de princes qui vous attend. De belles grandes histoires qui transcendent notre imaginaire, nous, de simples petits sujets du peuple. Des histoires grandioses, mais aussi terrifiantes. Des contes de despotisme et de guillotine. D'ailleurs, le meilleur régime politique, disait Stendhal, c'est la monarchie absolue tempérée par l'assassinat. Alors, vous l'aurez deviné, ce soir, les acolytes vous font tout un cabaret autour de la monarchie. Je me tourne vers vous, les acolytes, et encore ce soir, c'est Christine qui va nous accompagner en musique.
Ben oui, quel thème précieux, Jean-François. Alors, j'ai dégusté un English tea en cherchant quelques instruments musicaux royaux.
Merci beaucoup, Christine. On revient plus tard à toi. Janelle, pour ta part, tu t'es demandé s'il y avait beaucoup d'autres rois et reines. On connaît évidemment la reine qui est sur notre billet de 20$, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres?
Oui, il y en a plein d'autres. J'étais curieuse d'aller voir ça. 23% des pays du monde ont une monarchie.
Ah ouais.
À suivre, je vous en parle tantôt.
Bon. Geneviève, avec toi, on va faire un petit jeu. On va jouer à... Comment t'es mort?
Exactement. On va bien s'amuser. Vous allez voir, c'est tordu.
Fait que tu vas nous dire comment on va chercher comment les rois et les reines sont mortes, c'est ça?
Exactement. On va voir si vous connaissez bien nos monarques.
Oh, wow.
Merci. Juan, pour ta part, toi, t'es le sujet de la reine Élisabeth, comme nous tous,
oui.
Mais tu es également un sujet d'une autre royauté.
Oui, du roi d'Espagne, donc c'est ça. Je vais vous en parler tantôt. Ça brasse pas mal en ce moment en Espagne du côté de notre ami le roi Philippe VI.
Alors, you're gonna spill the tea?
Yes! j'ai fait un très bon sujet.
Et Patrick, pour ta part, ben, tu vas nous conter une histoire médiévale.
Oui, je vais parler du roi Arthur sur une petite note humoristique. C'est vrai, c'est pas vrai, des légendes, on verra ça tantôt.
Mmh. Oh, j'ai hâte.
Alors, êtes-vous prêts?
On est prêts, oui.
Vous êtes prêts à démarrer ce cabaret?
Yes.
Tout à fait.
On va le démarrer avec la seule princesse que je connais chanteuse, la fée de Grace Kelly. Allez, la princesse irrésistible.
On écoutait Stéphanie de Monaco, effectivement, la fille de Grace Kelly, mais aussi du roi Rainier III. Un mariage qu'on connaît bien, Grace Kelly qui est décédée d'un accident d'auto. Je ne sais pas si vous saviez, mais Stéphanie de Monaco était présente dans la voiture lors de l'accident, elle a survécu.
Est-ce que sa sœur Caroline était présente aussi ou pas?
Non. Je pourrais faire la recherche et vous venir à la fin de l'émission. 1986.
Ouais. facebook.com/lecabaretdesacolytes. Allez nous aimer. Allez également nous aimer sur les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Google. Si vous êtes sur Spotify, vous avez juste à nous retenir comme podcast favori. Et alors, on débute ce cabaret des acolytes et je me tourne chez Janelle, ce cabaret avec toi. Et alors, tu voulais explorer justement les monarchies à travers le monde sur un angle moderne. Quelle monarchie existe encore aujourd'hui?
Ben moi, je pensais faire mes petites recherches assez simplement, vous parler de différents monarques les plus connus. Je me suis rendu compte que qu'avant de me garrocher là-dedans, fallait que je fasse un peu la différence entre différents types de monarchies. Saviez-vous qu'il y en a des différents types de monarchies aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable d'en nommer?
Monarchie parlementaire, monarchie constitutionnelle,
monarchie absolue. Exact, oui. Ben juste rapidement là pour être sûr parce que on va comprendre un peu tantôt la monarchie constitutionnelle lorsque dans le fond les pouvoirs du monarque sont définis par une constitution bien écrite. Donc, comme ça, il y a une séparation dans les pouvoirs. Au Canada, en ce moment, on vit ça. Une monarchie parlementaire, donc lorsque le chef du gouvernement est nommé par le roi, donc il y a une représentativité de la monarchie, dans ce cas-là, au Parlement. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas aussi de l'Espagne. Et la monarchie absolue, qui est vraiment le monarque qui détient tous les pouvoirs. Si ça se veut plus tyrannique, là, en gros guillemets, cette monarchie. Par contre, là, c'est sûr qu'ils sont quand même un peu limités par les us et coutumes, mais bon, bref, ils ont quand même tous les droits. Puis à travers de tout ça aussi, il y a le Commonwealth qu'on peut bien se demander, c'est quoi, ça sert à quoi exactement ça? Parce que là, je me suis posé cette question-là. Donc, tu sais, Commonwealth dans lequel nous sommes, le Canada, c'est un rassemblement, en gros, de 53 pays. Ça a été formé en 1949. Donc, on n'a aucune obligation les uns envers les autres, mais on adhère à une charte commune qui est de valeurs fondatrices, là, la démocratie, les droits humains, la non-discrimination, etc. Puis cette alliance-là, en fait, c'est juste un regroupement pour s'entraider en cas de danger où on voudrait développer. Exactement.
Ce qui nous unit, c'est la monarchie, c'est la reine Élisabeth II, c'est ça?
Exactement. C'est elle, dans le fond, qui est notre monarque, qui nous unit tous ensemble. On n'a pas d'obligation concrète les uns envers les autres, à part, justement, nos valeurs fondamentales qui sont très proches et de s'entraider en cas de...
Il n'y a pas juste nous qui se demandent qu'est-ce que c'est le Commonwealth. La reine Elisabeth aussi, je pense qu'elle se demande c'est quoi.
Je pense qu'on a des facilités, mettons, à aller en Australie ou à aller dans un autre pays du Commonwealth.
Oui, exactement. Ça nous facilite aussi les échanges commerciaux, etc. Okay. Oui, exact. Cool. Et je disais en entrée qu'il y avait 23%. Ça représente 44 pays encore aujourd'hui sur 193 qui ont une monarchie. La majorité sont constitutionnelles. Vraiment, la grande, grande majorité sont constitutionnel. Il y en a 5 qui sont absolus.
Ah oui, OK.
Darussalam, j'avais de la misère à le prononcer cette semaine. Darussalam, le Oman, l'Arabie Saoudite, évidemment, je pense qu'il est le plus connu. Le Swaziland et le Vatican. C'est une théocratie absolue.
Donc le pape.
Oui,
ah oui.
Exactement. Mais qui est considéré comme une monarchie entre guillemets absolue.
Même s'il est élu et tout. Là.
Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, parce qu'il est pas,
il est pas vraiment élu.
Il est pas élu. Par démocratie.
Ouais, non, c'est vrai.
C'est ça. Puis je me suis demandé, OK, mais l'Union européenne là-dedans, où est-ce qu'ils en sont dans cette monarchie-là? Fait qu'il y a 6 pays concernés, right? le Danemark avec la reine Marguerite II depuis 1972, Henri du Luxembourg depuis 2000, Willem Alexander intronisé aux Pays-Bas depuis 2013, de la maison d'Orange Nassau, excusez-la. Mm-hmm. Charles XVI, c'est ça?
Je confirme.
Mon Dieu, les chiffres romains, c'est pas facile. Non. Charles XVI, Gustave de Suède, de la maison de Bernadotte, et Philippe de Belgique depuis 2013. Puis évidemment, le roi de l'Espagne, Juan, son nom?
Philippe.
Ouais, exact. Donc, dans ceux-là, c'est sûr, c'est plus des monarchies plutôt symboliques, cérémonielles ou plutôt militaires. C'est sûr, ça vient avec un coût. En Espagne et en Suède, ils payent leurs impôts. Les rois et les reines, ils payent des impôts. Mais même s'ils payent des impôts, ça coûte cher. La plus coûteuse, c'est au Luxembourg. Le grand-duc dispose d'un budget de 10 millions par année. En plus de son salaire. Au pays de la maison d'Orange Nassau, quand même 44 millions par année. Je vous dirais que la celle qui coûte la moins chère, c'est la couronne d'Espagne, la moins coûteuse. Le roi Felipe a baissé son salaire par rapport à son père.
Ouais, ben il n'y a pas eu de choix. Exact. Je vais expliquer tantôt pourquoi.
Exact. C'est un excellent tremplin vers toi, Juan, mais 230 000 euros par année quand même. Puis oui.
Mais les Espagnols se plaignent quand même de ça.
Hey, ben j'ai hâte que tu nous en parles.
Ouais.
J'ai hâte que tu nous en parles. Voilà. Mais donc, j'étais quand même curieuse de voir qu'il y en avait encore autant aujourd'hui. Voilà. Êtes-vous surpris de tout ça?
Oui. Quand même.
Pas mal.
Je ne savais pas qu'il y avait autant de reines et de rois.
Ouais. Ouais.
Puis, Janelle, ta série là, que t'as inspirée, c'était-tu The Queen?
Non, c'était The Crown.
The Crown.
Oh, c'est The Crown. J'ai fait le lapsus, la joke, c'est ça que je pensais. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before.
Ça vacillait comme des flammes en studio.
Oui, hein, c'est beau. En fait, c'est une chanson qui est sortie premièrement en 1973. C'est Elton John qui la chantait. C'était pour Marilyn Monroe. Et au départ, si vous vous souvenez, le début des paroles, ça commençait en disant « Goodbye, Norma Jean ». Alors, c'était elle. Et par la suite, repris en 1997 pour la princesse Diana suite à son décès en l'appelant « Candle in the Wind ». Et il y a quelques petites paroles aussi qui ont été modifiées là, pour l'occasion.
Quelle belle chanson.
Très belle chanson.
On va bouger un petit peu plus parce qu'elle a tourné en boucle chez moi dans les deux dernières années, sortie le 12 mars 2020. On n'avait rien d'autre à faire. Kings and Queens. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens.
C'est Eva bon! Max.
Excellent choix, Christine.
Eva Max. Alors, on poursuit ce cabaret des acolytes. Je me tourne cette fois-ci vers Juanito. On connaît tous plus ou moins les travers de la monarchie anglo-canadienne. Aujourd'hui, dans ta chronique, tu te penches sur les potins de la monarchie contemporaine, mais pas nécessairement celle qui nous touche de près.
Donc, c'est bien ça, Jean-François. Je me suis dit que ce serait sympathique pour moi d'aborder d'autres familles royales que celle de la reine Élisabeth, qu'on connaît très bien ici au Canada, puisque c'est la reine du Canada. Et notamment, comme vous le savez, ben, je suis espagnol. Et de fait, je suis aussi le sujet d'un autre monarque, comme tu le disais en introduction, Don Felipe VI de Bourbon.
Est-ce que tu te sens déchiré dans ta monarchie?
Pas vraiment.
Ah, OK.
Donc, je remonte un peu dans le temps. Je vous dresse un petit peu le tableau de ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, en fait, l'Espagne, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'Espagne s'est libérée du franquisme en 1975. Puis ça, elle était donc sous un dictateur depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a pas été libérée par les libérateurs de la Seconde Guerre mondiale. On est resté avec notre dictateur jusqu'en 1975. Puis quand Franco est décédé, le roi espagnol, qui était alors en exil en Grèce parce qu'il était marié avec la princesse grecque, il s'appelait Juan Carlos. Il s'appelle Juan Carlos. Il est venu, en fait, réinstaurer une démocratie, notamment une monarchie parlementaire donc en Espagne, comme le disait Janelle tantôt. Donc, assez similaire à ce qu'on connaît au Canada. Donc, clairement, il avait quand même une cote de popularité pas si mal jusque ces dernières années.
Ben oui, c'est lui qui a sauvé le peuple, en d'autres mots, pour le peuple.
Ouais, ben, au début, là, c'était un peu l'image qu'il avait, etc. Mm-hmm. Bon, après ça, on voit les coûts que ça coûte, puis effectivement, tout le monde commence à se plaindre des coûts de la monarchie, mais bref. Donc ça,
tout servait ça un coup.
C'est ça, mais vous savez pas à quel point. Parce qu'en fait, depuis 2014, le roi Juan Carlos avait abdiqué, donc il est devenu le roi émérite. Puis vraiment, le roi Philippe, là, c'est vraiment l'incarnation du film américain. Là. C'est comme, il est beau gosse, il a participé aux Jeux olympiques de 1992, il a marié non pas une duchesse ou une comtesse, whatever, mais la star qui présentait le journal télévisé de la première chaîne espagnole. Fait que jusque-là, on est comme dans un rêve, là. Soudain, en 2019, la monarchie a commencé à devenir un problème pour les Espagnols.
Juanito, qu'est-ce que ça veut dire un roi émérite? Il est devenu roi émérite, ça veut dire qu'il est...
Ouais, alors le roi émérite, c'est le
papa qui est encore vivant.
C'est ça, il garde le titre du roi.
Mais il n'est plus roi.
Il n'est pas en fonction.
Il a abdiqué.
Il a mérité le titre de roi, en fait.
OK, d'accord, merci.
Bref. Fait que le roi émérite, justement, Juan Carlos, du coup, en 2019, il se retire de la vie publique, puis ça attire sur lui les projecteurs auxquels il ne s'attendait vraiment pas. Et puis, on découvre qu'il a joué de son influence auprès du roi de l'Arabie saoudite, qu'il considère comme son frère, en fait.
Une des monarchies absolues.
Absolue, oui. Exactement. Et le tout pour que ce dernier concède à une grande entreprise espagnole la construction d'une ligne de train à grande vitesse. Jusque-là, ça va bien, c'est un monarque qui joue le rôle un petit peu d'ambassadeur sur ce genre de projet. Tu sais, c'est comme correct, entre guillemets. Là. Fait que là où le bas blesse, c'est quand cet ambassadeur se voit octroyer une centaine de millions de dollars en commission pour son intervention. Puis que non content de ça, de pas l'avoir fait gratuitement, il a placé son argent en Suisse, dans un compte numéroté, à l'abri des impôts espagnols sans que personne ne le sache. Alors, bien sûr, ils ne s'attendaient pas à ce que ça se sache, mais ça s'est su. Et puis de là, ils ont commencé à vouloir investiguer de plus en plus. Puis là, ils se sont rendus compte que le fameux roi émérite, qui avait supposément libéré l'Espagne, puis qui avait une bonne réputation jusque-là, dans le fond, il avait des comptes dans plusieurs paradis fiscaux. En plus d'être malhonnête, il trompait sa femme avec plusieurs maîtresses.
Oh my God!
Fait que là, comme sa cote de popularité a vraiment, vraiment descendu. Là, on est vraiment dans le potin à fond. Là.
Et ça, c'est les journaux qui sortaient ça?
Ouais, puis c'est vraiment la presse à scandale. Puis à chaque fois que Hacienda, enfin l'organe des impôts espagnol ou qu'une juridiction espagnole voulait aller contre lui, étrangement, l'enquête est abandonnée. Fait que pour Hacienda, par exemple, pour les impôts, sur les 100 millions, il a décidé, lui, qu'il allait payer ce qu'il aurait dû payer en tant qu'impôt. Puis, ils ont simplement annulé les charges contre lui, alors qu'il a quand même fraudé. Non, tu sais, criminellement parlant, ça se fait pas. Là. Je veux dire, t'es roi, t'assumes tes erreurs, t'es supposé de... T'sais, puis au lieu d'assumer ses erreurs, il a écrit une lettre à son fils. En août dernier, je pense, août 2020, je me rappelle plus très bien quelle année. Puis il dit que il s'exile. C'était août dernier. Il s'exile d'Espagne, puis qu'il veut pas déranger le règne de son fils. Et puis que dans le fond, il aura plus jamais de rapport avec l'Espagne. La reine l'a renié. La reine espagnole, qui est la princesse grecque. Là.
Ils sont divorcés.
Non, mais elle n'aura plus de contact avec lui.
Okay. Oh, Dieu!
Puis pour conclure, en fait, je dirais donc que dans le fond, c'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses avec Harry, Meghan, dans notre monarchie à nous ici au Canada, puis Andrew, Ou encore que la reine accepte finalement que Camilla soit reine consort quand Charles va devenir roi. Je sais pas si vous saviez ça, là. Mm-hmm. Mais finalement, ben, ça se passe dans toutes les monarchies. C'est la marde de partout. et en fait, c'est ce qui les rend autant fascinants que détestables. Puis qu'on a le goût de les regarder tout le temps, là, c'est qu'ils ont vraiment des histoires rocambolesques, tu sais. Tu peux être le sauveur un jour, puis tu peux être celui qui arnaque tout le monde le lendemain.
Et qu'on envoie en prison.
Exactement. Qu'on aimerait envoyer en prison, mais
qu'on lui coupe
pas
la tête. You should have heard the knocked out jailbird sing that rock. Everybody let it rock.
On écoutait Jail Rock, Jailhouse Rock, mais il fallait que je me mélange pour le King.
Ah, King.
Jean-François, cette semaine, tu me disais que tu apprenais à apprécier Elvis Presley en vieillissant.
Oui, effectivement. Mais je me serais jamais imaginé, jeune, pouvoir passer une soirée à écouter du Elvis, mais là, je peux me l'imaginer. Je dis pas que je le fais, là, mais j'apprécie mieux tout l'essor, tout ce qu'il a fait pour la musique. Puis c'est tellement enveloppant comme musique, là. Puis Juanito, on a souvent eu ces discussions-là sur Elvis.
Ouais, effectivement, mais dans ton cas, en fait, particulièrement, je pense, Jean-François, que j'ai une petite explication pour toi. Savais-tu que le King est décédé le 16 août 1977?
Et
qui est né 2 mois après? Pile poil 2 mois après? Donc, qui il s'est réincarné dans ta meilleure amie? Geneviève.
Oh! On voit comment il est bon dans les dates de fête.
Je calculais, je me disais, c'est qui?
En tout cas, c'est peut-être pour ça que tu l'apprécies un peu plus aujourd'hui, Camille. Oui,
merci.
Il grandit en toi.
J'aurais voulu l'inventer, là. Okay? Vraiment, là. Hein? Les fun facts.
C'est quoi?
C'est la chanson préférée de qui, cette chanson-là?
Je sais pas. Geneviève?
La reine Élisabeth II.
Non!
Pour vrai?
Ben non.
Je la vois pas danser
c'est
là-dessus.
C'est non, ben drôle.
Dancing Queen. Oh, wow.
Je sais pas si ces derniers mois, c'est encore le cas, mais tu sais, il y a quelques mois, oui, elle tente toujours de danser sur la chanson parce que c'est la reine, puis elle aime danser.
Je vous dis,
ça c'est au château Windsor, bien sûr, je m'imagine, là, puis probablement chacun d'entre vous, vous avez en tête l'image de la reine
chapeau
qui danse ça, Dancing Queen. Wow. Je veux juste vous dire aussi que Abba a chanté au mariage de la reine et du roi de Suède, Jeannette s'en a parlé tout à l'heure, donc cette même chanson-là aussi, alors Dancing Queen fait danser les reines.
Ah, wow.
Merci beaucoup Christine. Je me tourne vers Patrick. Patrick, jusqu'à présent, on a parlé des monarchies contemporaines, donc de notre temps, et tu vas nous parler d'une monarchie médiévale.
Ah, c'est cool, ouais. Ça.
Ben pour moi, la monarchie, effectivement, ça me fait penser aux rois du Moyen-Âge, ceux qui menaient leurs armées en brandissant une épée du haut de leur monture. Mmh. Un des rois les plus connus, je pense que c'est le roi Arthur. Depuis plus de 1500 ans, en fait, la vie du roi Arthur a été contée, racontée, écrite, romancée, jouée et maintes fois portée à l'écran.
Mais est-ce qu'il a vraiment existé?
On va savoir. En fait, je sais pas.
Non, mais c'est ça, c'est hyper. Je sais pas, moi non plus.
Mais, en tout cas, j'ai pas tout lu ce qui a été écrit, j'ai pas tout vu ce qui a été porté à l'écran. Je vais quand même essayer de vous résumer l'essentiel de son histoire en moins de 4 minutes. Êtes-vous prêts?
Oui, on est prêts. Go.
C'est parti. Donc, l'histoire, ça se passe effectivement au Moyen-Âge, autour du 5e siècle, en Bretagne. Il était une fois un roi qui s'appelait Uther Pendragon. Il vivait paisible dans son château avec sa reine, mais un jour, il prenait sa petite marche dans le bois quand il a croisé Ygraine, Ygraine, c'est la femme
mais de... juste là, là. OK, comme... Ouais. OK.
Ygraine, c'est la femme de son bon chum, le duc de Cornouailles. Ils se sont regardés les yeux dans les yeux. Deux, trois petites stepettes plus tard, v'là-tu pas que la coquette Ygraine accouche d'un beau petit bonhomme. Ils vont l'appeler Arthur.
Oh. Fait que c'était pas le fils du roi, alors. Ben oui, mais bâtard.
Ouais. Puis Uther, il était pas trop fier de sa prestation. Hein? Que, il était pas mal gêné de dire à sa reine qu'il avait, chérie, j'ai couru la galipote. Il a demandé à son à Merlin l'Enchanteur. Il a demandé à Merlin l'Enchanteur, son druide magicien, hey, prendrais-tu soin du petit Arthur à mener dans une cabane de bois rond, pas d'électricité dans le bois à bonne distance de château?
C'est tout bien.
Merlin est parti avec le petit Arthur. En grandissant, Arthur, il apprenait de Merlin tout ce que ça prenait pour devenir un bon guerrier. Un peu comme Luke apprenait de Yoda. Merlin, lui, il y avait un autre padawan on the side, la fée Morgane. Morgane, c'est la fille d'Ygraine puis de son duc, la demi-sœur d'Arthur. Puis, il paraît qu'elle avait des doigts de fée, la petite Morgane.
Mon Dieu.
Pas pour rien qu'elle est tombée dans l'œil d'Arthur. Puis Arthur, lui, c'est pas juste dans l'œil qu'il y est tombé. Ben oui, ils ont eu un enfant.
Mais c'est incestueux, c'est un scandale.
C'est tout ça, la base de l'histoire. Donc, ils ont eu un enfant, ils l'ont appelé Mordred. Hey, c'est en 475 environ, Mordred.
Les gamins, il y avait des dreads.
C'est comme Mathieu dans le temps, tu sais. Fait que là, lui non plus, il était pas fier d'avoir fait un bébé à sa demi-sœur. Fait que il a décidé de s'en débarrasser. Il a pris le bébé.
Quoi?
Il l'a mis dans un bateau à la dérive. Le bateau a coulé, mais à l'insu d'Arthur, le petit Mordred, lui, il a survécu. Hein? Ouais, puis pendant qu'il faisait ses dents pour préparer sa vengeance, Arthur, lui, entraîné par Merlin, il a trouvé une belle épée magique. Excalibur. Bon, là, il y a de la chicane dans la littérature à savoir, est-ce que c'est Viviane, la dame du lac, qui a donné Excalibur à Arthur, ou est-ce que Arthur, c'est l'élu qui a été capable de retirer l'épée que son père avait plantée dans un rocher?
Moi, je pense que c'est
Viviane. Faites votre choix. De toute façon, les deux options nous amènent à la page 42.
Donc, vous êtes le héros.
Oui.
Page 42, Arthur, armé de l'Excalibur, était devenu presque invincible. Il a réclamé le trône de son père, il est devenu le roi de Bretagne, puis il habitait au célèbre château de Camelot avec Guenièvre, sa charmante concubine.
Oh.
Arthur, il prenait plaisir à conquérir les villages voisins avec son armée et son bon ami Lancelot. Lancelot, lui, il prenait plaisir à faire des beaux yeux à Guenièvre, la reine de son roi et meilleur ami. Arthur, il a tout pardonné ça à Lancelot. Mais pour se changer les idées, pour se changer les idées, il a mis sur pied un club social. Les chevaliers de la table ronde.
Ah oui!
les chevaliers de la table ronde, c'est 12 gars qui ont parcouru l'Europe à la recherche du Saint Graal. C'est un peu comme une histoire spin-off. Je vous raconterai ça dans un prochain cabaret, OK? L'important à savoir, c'est que dans cette histoire-là, c'est dans la gang des 12 chevaliers, il y avait Lancelot et le petit gars d'Arthur, Mordred. Mordred était devenu grand puis il avait toutes ses dents.
Mais il s'appelait-tu Mordred? Il savait-tu que c'était son fils?
Je le sais pas.
Mon Dieu.
Elle l'a perdu. C'était son fils, là? Attends, je suis perdu.
Oui, c'est
Mordred,
son fils.
Mordred, c'est
aussi le
son fils qu'il a eu avec sa demi-sœur.
Il l'a abandonné dans l'eau, mais il a survécu.
Celle qui est tombée dedans.
Vous suivez bien plus que moi.
Fait que là, quand Mordred s'est senti assez fort, il a confronté son père en duel pour lui ravir le trône. Dans la bataille, ils se sont échangés des coups d'épée. Ils ont fini par s'entretuer. Les deux sont morts. Excalibur est retourné au fond du lac au bon soin de Viviane, puis la tombe du roi Arthur, elle serait sur l'île d'Avalon, quelque part au milieu de la Manche. Tu l'as dit tantôt, Juan, effectivement, en résumé, Arthur, c'est un roi qui est né de l'adultère. Il a conquis des grands territoires à l'aide d'une épée magique. Avec ses amis, il a vagabondé à la quête de la coupe du Christ. Il a fait un enfant avec sa demi-sœur. Il a pardonné à son meilleur ami qui a batifolé avec sa femme. Il a péri par l'épée, tué par son fils dans un combat sanglant. C'est-tu vrai tout ça? Je le sais pas. C'est-tu juste des légendes? Je le sais pas pantoute. Mais chose certaine, le roi est mort.
Vive le roi! Chevalier de la table ronde, allons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, allons voir si le vin est bon. Allons voir, oui, 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 allons voir, non, 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 allons voir si le vin est bon. Allons voir, oui, 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 allons voir, non, 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 allons voir si le vin est bon.
S'il est bon. Christine, qu'est-ce que...
Chevalier de la Table Ronde, c'était une version de La Virée, un groupe du Nouveau-Brunswick qui est quand même connu internationalement, là, avec plusieurs succès traditionnels. Merci, c'était une belle légende.
c'est très bon, Patrick.
C'est très bon, très bon.
C'est que, est-ce que c'était avant ou après le combat? Ils étaient 12 ou ils étaient 10?
Mmh, on ne sait pas. Je t'ai crampé parce que je sais ce qui s'en vient et on a préparé le jingle du jeu qu'on va jouer avec Geneviève. On l'a préparé cette semaine. Et Geneviève, on va jouer à quel jeu?
Comment je suis mort?
Comment t'es mort?
Alors, Geneviève, vas-y.
Bon, on commence ça, les amis, avec Cléopâtre. Cléopâtre 7, hein? Alors, d'après vous, comment est morte Cléopâtre?
En fait, tu joues le jingle?
Oui.
Comment t'es mort?
Alors, ah! Par Jules César, étranglé qui n'en pouvait plus de ses caprices. B. Décédé suite aux complications d'une chirurgie esthétique sur son nez. C. Étouffé dans son sommeil par une servante jalouse et frustrée. D. Empoisonné.
D.
C.
Pour moi, c'est A.
D.
D, moi, empoisonné.
Ouais. D, moi aussi, empoisonné.
Oh, ouais. Alors, Jean-François, cri-cri, jaja. 5 points chacun!
Yeah. Oh, j'étais persuadé que c'était Jules César qui l'avait tué.
Est-ce que l'histoire nous dit de quoi elle a été empoisonnée?
Check ça, l'affaire rocambolesque. Vous disiez tantôt, abracadabran, check ça. Mais c'est un peu comme la légende du Loup Arthur, on le sait pas. Okay? Jusqu'à aujourd'hui, ça demeure confus, ok, pour Cléopâtre. Donc, dans le fond, on ne sait pas si c'est un suicide ou un meurtre maquillé. Cobra, aspic ou encore avec le poison dans une aiguille, on n'est pas sûr non plus. Aspic, je rappelle que c'est pas le mets là, qu'on mange, le mets un peu avec du jello là, ces trucs là, des aspics là, c'est pas ce qu'on parle. On parle vraiment d'un type de serpent genre couleuvre, ok. Donc on sait pas ce qui s'est passé. On sait que son amant du moment, Marc-Antoine, s'était suicidé quelque temps auparavant par désespoir. Bon, il avait perdu aussi une bataille eux autres et tout ça.
Non.
Donc est-ce que vraiment elle s'est suicidée ou encore c'est un meurtre, on le sait pas. Il y aurait peut-être Octave qui en aurait voulu à Cléopâtre, ça serait peut-être lui qui aurait dit je te force à te piquer de l'aiguille empoisonnée, girl.
Bon. Moi, je m'étais dit qu'elle avait peut-être été embaumée vivante.
Non.
Ça aurait pu être une possibilité, eux.
Oui.
Donc, prochaine question.
Comment t'es mort?
Fait que comment t'es mort, mon Henri VIII? Hein? V3, ça, Janelle. Le 8.
V3.
Pas facile, les chiffres romains aujourd'hui.
Donc, ça serait quoi son origine? Ah! Poignardé de 12 coups dans le dos par Catherine Paré, sa dernière épouse.
Ah, peut-être.
Non, il me semble que ça me dit quoi.
B. Mort naturelle par un bon point. C. Conspiration de l'Église catholique orchestrée par le petit-fils du pape Paul III, d'une noyade par effondrement sur un pont. D. Tiré d'une flèche perdue à la chasse.
4. A. Non. I.
V.
8.
Ah! Moi, je pensais A.
Non, 3 avec le pape, là. Il me semble que c'est complexe
pour inventer. Je pense que c'est
ça.
Complexe pour inventer, ouais. Aussi.
Je pense qu'il est mort dans bon point, puis. je pense qu'il est mort dans bon point.
Le A, c'est-tu de la petite vie, ça? Les parés?
Je penserais pas, moi.
Je vote pour le 3.
OK. Alors, attention, mesdames et messieurs, on a un gagnant.
C'est qui?
C'est bon Patrick!
Point. Je le savais, oui, il gagne tout le temps.
Il est bon! Qu'est-ce que je te dis? Il se fait split, c'est le roi de la split, le roi des quiz. Alors, effectivement, guys, checkez ça la patente. Lui, là, je veux dire, il vieillissait puis il se comportait quand même comme un jeune homme constamment. Donc, ah ouais, je mange plus. Ah ouais, je bois encore. Let's go. All in. Fait qu'il, maintenant, il a passé d'un 16, son armure d'un 16-32 à 52. Ça vous donne-tu une petite idée pareille?
Dans l'armure, là?
Ah ouais, ça c'est de l'armure, ma fille. Ça tombe dessus, ça t'effoire. Je te le dis tout de suite. Tu meurs toi aussi. fait que c'est ça. Fait que ça a apporté des complications, diabète de type 2, évidemment, ces choses-là. Alors, il serait décédé de se laisser aller là. Et
c'est
on
lui,
peut dire
qui tuait toutes ces femmes, hein?
Oui, il était. On le surnommait. Il y a plusieurs rois qu'on surnommait comme ça, mais oui, entre autres Barbe Bleue. Il y avait ça. Ce surnom-là, effectivement. Oui, il en a tué quelques-unes. Fait que en tout cas, c'est ça. Lui est mort enseveli vivant du corps par le corps. Hein? Mmh. C'est ça. Ah. On y va pour comment est mort le roi Soleil, Louis XIV.
Comment t'es mort?
Est-ce que Louis XIV est mort de la gangrène ou la gorge tranchée? Ou mort au combat de la guerre de succession d'Espagne? Ou chute mortelle lorsqu'il visitait le chantier du Palais des Glaces?
B.
Mais non, c'est la gangrène.
Moi, c'est la gangrène. Oui.
Ouais. Non, tranché.
Non, il est tombé sur la glace.
Alors, on a, si je me trompe pas, deux gagnants.
Non.
C'est Jean-François et Cri-Cri.
Non, pas toi, point, avec point. Je veux pas compter mes points, non, mais c'est intolérable.
5 et 5. Oh, c'est ex-aequo au table.
Ah, t'en as-tu une petite dernière pour casser ça?
Écoute, je peux bien, mais je veux juste expliquer comment il est mort, ce gars-là. Hein? Donc, c'est un accident de chasse qui plongea Louis XIV dans une profonde agonie lente et douloureuse. Puis, fait qu'il était atteint de gangrène à la jambe et en mourut peu de temps avant son 70e anniversaire. Et c'est ça, c'était vraiment douloureux. C'était très... pas le fun agonie. Fait qu'on est chanceux de pas avoir été roi dans ce temps-là parce que c'était pas facile, pas beaucoup de moyens pour se soigner. Hein? Donc, sinon, ben une petite dernière, je pourrais bien vous demander comment est morte. Alors, juste entre Jean-François et Christine, hein, par exemple, le plus vite, pas de choix de réponse.
Okay.
Vous êtes prêts?
Ah, vas-y.
Oui. On joue à quoi?
Comment t'es mort?
Alors, Cri-Cri, Jeffo, oui. Comment est morte Marie-Antoinette?
Décapitée. Non, guillotinée. Décapitée,
ben,
ah, c'est
ça, décapitée.
Mais je vais quand même y aller avec la guillotine parce que c'est très clair, ça montre l'instrument quand même, Christine, mais très bon. Bravo, je vous félicite. Vous êtes franchement des champions.
Bravo!
Ah.
Merci beaucoup. On s'en va où? On s'en va là.
Lundi matin, le roi, la reine et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme je n'étais pas là, a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mardi.
Christine. On est nombreux à avoir appris nos jours de la semaine.
Oh oui.
C'était une version chantée par Carmen.
Ah, c'était pour
Campagne.
Ça?
Eh oui.
Carmen Campagne.
Elle est décédée, non?
Oui, tout à fait.
Oui, malheureusement. Bon. Oui. Eh bien, c'est déjà la fin de ce cabaret des acolytes. Si vous nous avez aimés, ben allez. Allez nous partager sur les réseaux sociaux. Allez aussi, également nous aimer sur les plateformes de podcast, soit sur Spotify, sur Apple ou sur Google. On fait un dernier tour de table. Patrick?
Oui, faites attention aux doigts de feu.
Oh boy!
Je comprends. Geneviève?
Ben, moi, je peux dire que mon roi spirituel, c'est mon papa.
Oh!
Cute.
Est-ce qu'il nous écoute en podcast?
Parfois,
quelquefois.
Oui.
Ta mère, tout le temps.
Ma mère, pas mal tout le temps.
Ouais.
Salut, Sergio.
Sergio et Daniel. Allez.
Daniel, hein?
Janelle.
Oui, moi, je suis quand même fascinée par ça, la monarchie. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça, aller un jour en Grande-Bretagne, voir le palais, puis les gardes. Ouais, j'ai quand même
ça. Est-ce que ça te fait rêver au point de vouloir devenir une monarque?
Non, j'aime pas leur mode de vie actuel, là, mais tu sais, vous savez, moi, j'aime bien l'histoire de Disney, fait qu'il y a comme quelque chose là-dedans.
Ah oui, hein? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Disney, hein, ouais. dans le thème, ça aurait été intéressant. Ouais. Juanito?
Ben moi, j'ai pour mon dire qu'une république, c'est quand même pas mal mieux qu'une monarchie, mais ça, c'est moi. Vive la république libre!
Christine?
Mais comme une reine, on a plusieurs tâches. Alors moi, j'ai fait des recherches pendant le cabaret durant l'accident de voiture de Grace Kelly. Stéphanie de Manuaco était la seule présente en 1982.
Ah, okay.
Donc Caroline n'y était pas. Et quel cabaret superbe!
Ben oui, c'est tout un cabaret. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ce cabaret est une production Fort Talent. On participé à cet épisode Christine Gélina, Juan Blasco, Janelle Touchette, Geneviève Proulx, Patrick Beaudoin. Mon nom est Jean-François Gélina et on se laisse la gang sur cette réflexion de Robert Sabatier, ce poète et écrivain français. Lorsqu'un commerçant affirme que le client est roi, méfions-nous de la guillotine. Bonne semaine tout le monde.
Merci.
Merci.
Salut.